sagrada Sierra Madre, testimonio de pobreza. Son indígenas con hambre en su selva petrolera. Tienes ya libre comercio en tus planes ambiciosos, con mensajes todos necios, Televisa ya es tu socio. Tu esperanza, campesino, entre Clinton y Zedillo, tu petróleo en sus bolsillos, la Casa Blanca y los pinos.
Muere el reptil que te arrastra ante el águila azteca. Estirpe de águila es tu casta. Eres de Anáhuac la grandeza. La dignidad de tu raza es el valor de la patria.
Patria de hermoso verdor, de oro negro y rico océano. Has perdido sin honor tu grandeza, mexicano. Violas derechos humanos, violas la Constitución. Vivan los encapuchados, viva la revolución. Tu esperanza, campesino, entre Clinton y Zedillo, tu petróleo en sus bolsillos, la Casa Blanca y los pinos.
Vous êtes bien dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Aujourd'hui, je reçois Anne Plattner et Pierrette Iselin. Anne, qui est membre du collectif Viva Zapata Genève, Pierrette, membre du comité de solidarité avec le Chiapas de Lausanne, et toutes les deux qui ont fait partie de la commission internationale sur les droits humains au Chiapas, qui était en février 98 au Chiapas, pour toute une enquête sur les violations des droits de la personne dans cette région du monde, dont elles nous ont expliqué les enjeux, entre autres, essayer d'empêcher qu'un accord économique soit signé avec l'Union européenne tant que les droits de l'homme seront si peu respectés au Chiapas. Alors, Pierrette, tu venais nous dire le choc que vous avez eu devant ce camp de réfugiés à Polo, où il y avait plus de 10 000 personnes réunies dans un espace très restreint, dans des conditions de vie quotidienne extrêmement difficiles. Les gens sont réfugiés pour quelles raisons? C'est-à-dire, pourquoi ont-ils quitté leur communauté?
En fait, la plupart viennent du Nord, et c'est au Nord que la situation actuellement est la plus difficile pour les indigènes du Chiapas, parce qu'ils sont butés aux exactions des groupes paramilitaires. Ces groupes paramilitaires se sont constitués depuis les années 94, mais ils sont devenus spécialement importants au courant de cette dernière année, entre 96, 97 et 98. Et récemment, nous avons eu le père Chantot qui a passé à Lausanne, qui lui a été expulsé aussi du Mexique parce qu'il a osé dire la vérité. Et il nous a expliqué que lui, dans sa paroisse de Chenalo, où il y a justement Polo, le camp de réfugiés, et Acteal, dont nous parlerons peut-être plus tard, les groupes paramilitaires ne sont apparus que l'année passée, en fait, à partir de mi-août 97. Et ces groupes paramilitaires étaient pour la plupart formés de jeunes de la région, qui étaient des groupes qui sont des jeunes désœuvrés, qui n'ont pas trouvé de travail, qui n'ont rien. Et alors, le Parti révolutionnaire institutionnel, le PRI, les engage pour un peu d'argent. Ce sont en général même de pauvres Indiens, tout aussi pauvres que leurs compagnons qui sont à côté d'eux. Mais ils sont armés, ils ont de l'argent, ils ont même des fois de la drogue. drogue, ils ont de l'alcool et ils commencent à se retourner contre les populations qui les entourent et même contre parfois leurs familles. Et ils commettent des exactions dans les villages, ils brûlent les maisons, ils saccagent, ils pillent. Les gens des villages fuient dans la montagne. Quand ils reviennent, ils ne trouvent plus rien. Ou même, ils s'installent, ils prennent les terres des paysans qui étaient là et ils les rechassent encore une fois. Et c'est comme ça que tout ce mouvement de réfugiés se crée et que les gens fuient plutôt vers le sud. Mais il faut faire attention parce que c'était au nord que ça s'était constitué vers 95-96 et maintenant c'est dans tout le Chiapas que ces bandes de paramilitaires commettent leurs exactions, à tel point que les groupes se sont développés, ils sont comptabilisés, ils sont même plus de 14 groupes qui existent maintenant et qui agissent sur tout le Chiapas.
Mais l'objectif de tels groupements, c'est quoi? Enfin, disons, le prix lorsqu'ils arment ces jeunes, il a l'idée de quoi? De vider les villages ou de semer une telle terreur? Mais en déplaçant les gens, quel est l'objectif?
C'est de démanteler les réseaux d'appui des apatistes. De démanteler, absolument, de démanteler toutes les sympathies, d'empêcher qu'ils se constituent en communauté justement autonome. Et d'ailleurs, ils fonctionnent aujourd'hui en attaquant aussi toutes les communautés autonomes qui viennent de se constituer. La dernière en date, c'est Tani Perlas, une communauté autonome qui s'était constituée en avril, autour du 12-13 avril. Et le jour de sa constitution, les paramilitaires sont arrivés, ont arrêté les étrangers qui étaient présents là, ont arrêté des gens, ont saccagé les maisons. Ils essayent de créer une telle tension qu'on en vienne ce serait dans la logique du gouvernement, qu'on en vienne que le gouvernement décrète que c'est un conflit interethnique et que lui, alors, peut intervenir après avec l'armée. C'est pour ça que l'armée est tout près. Donc, on est dans un brasier et que la moindre tesselle peut enflammer totalement.
Alors, les gens donc fuient, viennent se réfugier dans certaines zones. Donc, l'armée de Zapatistes de Libération Nationale n'apparaît plus, pour l'instant, a vraiment disparu de ce champ d'action, comme tu l'expliquais, Anne.
En tous les cas, l'armée ne... C'est difficile quand on parle de l'armée parce qu'on ne sait jamais exactement de qui on parle. Oui. Mais... Elle ne peut pas intervenir directement pour protéger les gens. Ça ne s'est jamais fait. Parmi les discussions que nous avons eues avec ces déplacés ou ces communautés autonomes, une des questions qui revenait tout le temps, c'était enfin, jusqu'à quand est-ce que vous allez attendre sans vous défendre par les armes ? Jusqu'à quand est-ce que votre patience peut durer? Parce que les histoires qu'ils racontent sont proprement incroyables. Certains des déplacés sont encore poursuivis par hélicoptère. Il y en a qui, quand on parle de déplacement, c'est pas un déplacement, ça peut être plusieurs déplacements. Ils installent un campement et l'armée ou les paramilitaires démolissent ce qu'ils ont fait, le peu qu'ils ont. Enfin, c'est d'une cruauté permanente. Et en fait, jusqu'à quand est-ce qu'ils vont supporter de subir ce genre de traitement qui est presque incroyable pour nous?
Mais qui pose cette question? C'est vous qui
posez? C'est nous qui leur posions. Et avant leur réponse, ils nous ont dit très clairement, si nous on bouge ou si nous on attaque et on se défend, l'armée va nous tomber dessus.
Et là, c'est vraiment armé.
Notre but, c'est de résister à toutes les provocations, aussi cruelles soient-elles.
D'éviter la guerre civile.
D'éviter la guerre civile. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée souvent, c'est qu'ils tenaient compte du niveau de conscience de ceux qui les attaquaient. En disant, ils sont manipulés. Alors, ce sont des pauvres comme nous et nous ne voulons pas une guerre entre pauvres. Il faut qu'ils comprennent. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes attaqués? Alors, leur formule, c'était toujours « buscamos la forma ». Nous cherchons la forme de réponse, c'est-à-dire la parole et le dialogue. Et ils reviennent toujours à ça. Et donc, ils tentent de discuter avec leur, que ce soit leurs cousins ennemis ou les militaires. Il y a toujours cette tentative de dialogue pacifiste qui est absolument étonnante dans les conditions dans lesquelles ils sont. Oui.
Ça, c'est vrai que c'est assez surprenant parce que, bon, c'est vrai aussi que si l'armée intervient, ça va être l'horreur. L'armée mexicaine est bien plus armée que, je suppose, ne le sont les communautés ou les paysans. Donc, ça va être un massacre, quoi.
Oui.
On peut imaginer ça.
Mais oui, pour revenir aux paramilitaires, moi, je me suis rendu compte que c'était devenu un métier ou un mode de vie ou un gagne-pain. Je crois que c'est une manière aussi d'acquérir un statut pour ces gens-là. Et ils sont largement payés. Une chose que Pierrette n'a pas dit, c'est qu'ils rançonnent les gens. Dans les communautés, ils nous ont dit qu'ils avaient des impôts à payer aux paramilitaires ou aux prix. Et ils se font évidemment pas mal. Ils renflouent leurs caisses en vendant les propriétés des déplacés ou leurs récoltes. Et après, bon, ils font des fêtes ou ils achètent des armes. Mais c'est devenu tout un mode de vie assez horrifiant et largement répandu.
Avant que nous continuions à parler des groupes paramilitaires, toujours pour parler des réfugiés, à l'intérieur de ces camps de réfugiés, les gens sont là écrasés de terreur ou eux aussi vous ont dit qu'ils justement cherchaient à parler, à se réorganiser? Est-ce qu'ils espèrent pouvoir revenir dans leur village dans un avenir relativement proche ou bien c'est ces camps qui au début ont l'air d'être en guillemets de toile ou de feuilles comme tu expliquais Pierrette, mais qui ont des chances de devenir en dur dans un avenir relativement proche parce que la situation va s'éterniser?
On ne peut pas vraiment dire. Hein. Ce qu'on peut espérer, c'est que la situation aille de telle sorte qu'ils puissent réintégrer leur village.
Mais eux, qu'est-ce qu'ils disent ?
Mais eux aimeraient retourner dans leur village, bien sûr, parce qu'ici, ils mènent une vie... ils disent même qu'ils mènent une vie telle qu'ils n'ont plus qu'une tortilla par jour. Donc, je ne sais pas jusqu'à quand ils vont pouvoir supporter. D'ailleurs, il y a une mortalité infantile qui s'étend. Il y a des difficultés énormes. Et c'est vrai qu'ils sont à la limite du supportable. Alors, on peut souhaiter, il faut vraiment souhaiter que la situation se rétablisse pour qu'ils puissent retourner dans leur communauté. Mais de là, il y a tout un chemin à faire. Et les témoignages, en tout cas, récents que nous avons aussi après notre passage, montrent qu'on ne va pas vraiment vers un mieux, puisqu'il y a eu des interventions aussi de l'armée qui sont venues même jusque dans la communauté de Polo, pour déstabiliser un peu la population, la menacer, se moquer d'elle. Et ça, c'est des intimidations constantes.
Donc c'est pas, ça va être difficile parmi ces gens-là qu'ils continuent à se battre tellement la pression de la terreur est forte.
Tellement la terreur est forte, oui.
Oui, je crois que eux, leur lutte principale en ce moment, c'est tout simplement la survie. Ce qui nous a aussi beaucoup impressionné, c'est que dans certains de ces camps, ils n'acceptent pas l'aide qui vient du gouvernement. Ça, c'est complètement fou. C'est-à-dire que j'ai assisté à une scène où on m'a raconté, disons plutôt, que quand sont venues des délégations du gouvernement gentilles, humanitaires, après le massacre, pour leur proposer un soutien, le responsable de la communauté et des réfugiés a dit « Nous ne voulons strictement rien de vous, ce que nous voulons c'est la paix. Donnez-nous la paix et à ce moment-là on est tout à fait capable d'être autonome et de vivre avec trois fois rien. Mais vos dons, on n'en veut pas, on veut des conditions de vie. » Donc il survit, comme dit Pierrette, une tortilla, un peu de café par jour, d'après ce qu'ils nous ont dit. Et principalement sont des dons de Caritas mexicain qui arrivent jusqu'à eux. Quand nous étions à Mexico, sur le Zocalo, on a vu de grandes tentes qui ont tout de suite attiré notre attention. Et ce sont des tentes dans lesquelles la population, enfin la société civile qui soutient les réfugiés apportent à manger ou apportent des vêtements, ça arrive dans des grands paquets. Et tout ceci est acheminé par caravane au Chiapas dans les endroits les plus démunis. Mais d'après ce qu'on sait, une bonne partie de ce qui est donné n'arrive jamais au but. Évidemment, en route, ils sont arrêtés, soit par l'armée, soit par les paramilitaires. Là, il n'y a pas de miracle. Mais de la part du gouvernement, ils ont une attitude très, très frappante de refus d'aide. C'est fou.
Ça, c'est signe quand même d'une détermination par rapport à l'objectif qu'ils veulent atteindre, qui est assez incroyable. Quoi. Ouais. C'est vraiment, malgré la misère et la terreur, ouais, on garde devant soi l'objectif essentiel. Quoi. Ouais. Alors, pour revenir à ces organisations paramilitaires, ça veut dire que quoi ? Que le gouvernement veut à tout prix ne pas avoir l'air, eux, d'intervenir au Chiapas, en fait. C'est ça l'idée dans la création de ces... Ils veulent à tout prix dire, c'est, comme vous disiez, un conflit interethnique, mais nous, on n'y est pour rien, c'est ça ? Le gouvernement se lave les mains de ces interventions-là, officiellement ?
Officiellement, le gouvernement a signé les accords de San Andrés en 96, qui normalement prévoirait la paix à court terme avec une sorte de respect mutuel des deux parties, donc des EZLN et du gouvernement. Le problème est le suivant, c'est que le gouvernement n'entre pas dans l'application de ces accords. Alors que justement, pour les indigènes, ce serait une solution idéale de pouvoir appliquer cette question d'autonomie, de pouvoir mettre en valeur leurs droits, etc. Et le gouvernement cherche à gagner du temps. Donc comme il ne peut quand même pas intervenir directement avec l'armée, parce que là il aurait aussi une grande riposte internationale ou nationale, il serait en désaccord total avec ce qu'il a soi-disant dit officiellement, alors il utilise les paramilitaires et pour épuiser ceux qui sont en face. Et il attend que les gens soient complètement épuisés pour négocier éventuellement une solution de rabais qui minimiserait totalement les accords de San Andrés, qui enlèverait d'ailleurs tout leur contenu dans la question de l'autonomie des indigènes. Et d'ailleurs, il fait des propositions déjà dans ce sens où il essaye au niveau institutionnel d'avoir l'accord de certains partis pour négocier des nouveaux accords qui vident totalement de leur contenu ce que les apatistes avaient négocié en 96. C'est ça la situation.
Et donc alors, montent les uns contre les autres, divers, les membres même indigènes, enfin les indigènes de la région, avec tout ce qu'on sait de ce que ça signifie d'absurdité puisqu'ils sont dans la même situation. Quand on dit qu'ils essayent de dialoguer, mais ça veut dire qu'il y a des lieux, des chances possibles pour que ça se passe, parce que quand on a en face de soi quelqu'un qui est payé, armé par le parti gouvernemental, comment on a encore les moyens de pouvoir dialoguer et de parler avec cette personne-là? Dans quelles circonstances les indigènes imaginent pouvoir rencontrer ces paramilitaires ou trouver le moyen de dialoguer avec eux?
Alors ça, c'est tout un mystère. En tant qu'observateur étranger, c'est difficile de dire exactement comment se passent les rapports entre indigènes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a certaines communautés où la moitié du village est occupée par des priistes, donc des gens qui sont contre les apatistes, et l'autre moitié serait pro-apatiste. Alors comment... C'est spécialement vrai au nord, que c'est la région des communautés divisées, où il semblerait que les villages soient presque géographiquement divisés.
Mais les indigènes n'ont pas, certains d'entre eux, intérêt à ne pas être autonomes, à ne pas être propriétaires de leurs terres, à ne pas avoir leur système scolaire avec leur langue enseignée, enfin tout ce qui était les revendications.
Apparemment, ils auraient tous intérêt à ceci, mais comme une partie d'entre eux est achetée, elle se laisse acheter. Je suppose que ça fonctionne beaucoup sur ceci, hein. Et évidemment aussi que le prix a toutes ces tactiques terrorisantes et une partie des indigènes ne peuvent pas changer de camp sans risquer le peu qu'ils ont ou même leur vie, hein, puisque on a eu des témoignages de gens qui, parce qu'ils avaient refusé d'adhérer au prix, ont été assassinés du jour au lendemain. Donc évidemment que pour les indigènes, d'après nous, du moins notre point de vue, leur intérêt semblerait clair, Mais pour, je crois que la situation est rendue tellement complexe et compliquée et terrorisante que la plupart ne peuvent pas choisir en tout état de cause. C'est ça.
Que disent, quand vous avez dit, vous avez été les interroger. Alors, face à vous, alors qu'ils savent que vous venez d'une commission internationale pour témoigner sur la violation des droits de la personne, qu'est-ce qu'ils vous disent? Quel type de questions vous leur avez posées et comment ils réagissent face à vous? Ils se sentent en toute impunité, même face à une commission comme vous?
Les paramilitaires,
oui.
Tu dis?
Oui.
Alors, moi, je n'ai pas assisté à cette réunion-là.
Moi non plus, je n'ai pas assisté. Bon, ils ont eu une espèce de langage de bois. Ça ne s'est pas fait dans une communauté, ça s'est fait à un niveau institutionnel avec un représentant des paramilitaires.
Parce qu'il y a une institution paramilitaire en plus.
Oui, oui. Mais ils ont simplement dit que c'était une situation telle qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, qu'il y avait des problèmes à la limite que même un étranger, je crois que c'est une parole que j'ai entendu dire, on ne peut pas saisir toutes les subtilités, tous les conflits. Eux, ils essayent de ramener tout à des conflits interethniques. Mmh. Et alors, c'est un peu ce genre de discours qu'ils ont tenu devant les observateurs qui les ont interrogés.
Et ce serait quoi? Qu'une ethnie vole les terres des autres?
Quel prétexte? Ils accusent les communautés zapatistes d'elles exercer la terreur. C'est toujours ça. C'est-à-dire qu'ils accusent les bases d'appui de forcer les jeunes à les rejoindre et d'obliger les indigènes à travailler dans leur sens. Donc, c'est des accusations mutuelles que les groupes se rejettent. C'est ça.
Alors, on dit plein de choses sur Marcos. J'ai entendu quelqu'un qui me disait, lorsque je lui communiquais le fait que j'allais avoir la chance de vous rencontrer, qui me disait, oui, mais Marcos, maintenant, on dit que c'est un vendu. Des bruits courts tellement étonnants. Est-ce que la population pense que Marcos est un vendu? Ou est-ce que même qu'il se cache et qu'il n'est plus si efficace? Peut-être que c'est vrai que...
C'est vrai que la situation est difficile pour eux. Ce qu'on a pu constater avec les témoignages des observateurs qui sont allés à la Halida, là où se trouve quand même la direction de l'EZLN, pour la plupart, c'est que déjà, ils n'ont pu voir personne. Effectivement, la direction de l'EZLN a intérêt à ne pas se montrer officiellement. Elle change chaque jour d'endroit. Donc pour eux, la situation est difficile. Avec une situation comme ça, c'est difficile d'élaborer des communiqués, de réfléchir, d'avoir...
Il n'y en a plus, les messages.
Les messages existent toujours, mais ils sont peut-être moins... officialisés, sont moins rendus médiatiques parce que c'est une situation de retrait. C'est beaucoup plus dur pour eux maintenant de proposer une sorte d'espoir alors que l'ensemble des communautés zapatistes qui s'appuient sur eux sont de plus en plus décimées. Mais malgré tout, il y a toute une série de communiqués qui demandent par contre la solidarité. Et ceux-là, au niveau des... On les a eus. On a eu, donc, comme a dit Anne tout à l'heure, la vidéo que nous a envoyée les EZLN, où elle nous demandait justement qu'on témoigne le plus possible, appel à la solidarité, respect des accords de Saint-Andrés, que les prisonniers politiques, parce qu'il y a peut-être une chose qu'on n'a pas dite, c'est qu'il y a de plus en plus de prisonniers politiques. Quand justement une des bandes du prix entre dans une communauté, ils font des prisonniers. Ces prisonniers sont mis dans cette affreuse prison qui se trouve à tout cela. Et cette prison où des fois il reste 2 ans, et notre commission a pu constater les mauvaises conditions justement de vie qui leur sont faites, alors qu'ils n'ont rien fait, ils ont simplement été là et qu'ils ont contribué à créer une communauté autonome. Ils ont eu simplement ce défaut-là. Donc pour eux c'est difficile dans cette situation. Marcos nous a bien demandé, les EZLN aussi, de faire le plus possible part de ce qui se passe maintenant. Parce que la deuxième grand objectif du gouvernement mexicain, c'est d'utiliser la désinformation. La désinformation, l'utilisation du mensonge, du silence, empêcher qu'on parle de ce qui se passe là-bas. Okay. Et c'est dans ce cadre-là aussi que s'inscrivent toutes ces expulsions d'étrangers qui sont de plus en plus massives. Vous avez peut-être vu que il y a 2 ou 3 jours, 70 Italiens ont été expulsés, ouais, manu militari, dans des conditions pratiquement grotesques, alors que les Italiens qui étaient là pour justement témoigner au Parlement européen de ce qui se passe là-bas dans le cadre de cet accord de signature avec le Mexique. Et là, ça montre que le gouvernement mexicain, ça sent mauvais, comme disait peut-être Michel Chanteau aussi, ça sent mauvais.
C'est Michel Chanteau.
Pardon.
Qui est Michel Chanteau?
Michel Chanteau est ce prêtre expulsé, ah, voilà, qui a vécu 32 ans aux côtés des Indiens dans la communauté de Chenalo, qui avait un charisme extraordinaire, mais il a eu le malheur de dire une parole de trop. Il a eu le malheur de dire qu'effectivement, après le massacre d'Acteal, c'était certainement le gouvernement et le gouverneur du Chiapas qui étaient responsables de ce massacre.
Alors, on va quand même mettre une chanson qui a dû être dans la bouche de beaucoup d'indigènes du Chiapas, Viva Marcos, et qui est aussi une de ces chansons interdites, hein, n'est-ce pas?
Oui, je crois.
Et vous êtes toujours dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8.
Voy a contarles la historia, dando gracias al Eterno de la cena.